Ne jouez pas avec l'autre. Ne jouez pas avec les sentiments de l'autre. Faites gaffe à ce que vous laissez espérer, si vous n'êtes pas prêt de promettre. Vous voyez comment un simple café peut laisser imaginer beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il ne faut pas boire de café ensemble. Mais comprenez combien du coup un « je t'aime » trop vite dit, un geste de tendresse trop vite posé, peut laisser espérer beaucoup de choses. Et cette fois sérieusement, profondément. Et que si vous n'êtes pas prêt à tenir ça, à vivre ça, eh bien vous pouvez blesser. Vous voyez, parce qu'une attente profondément déçue, on ne comprend pas. Ne jouez pas avec les sentiments de l'autre. Et puis, pour être encore plus franc avec vous, messieurs, faites gaffe à un truc. Depuis que je confesse, ça me marque beaucoup. Il y a un truc qui fait des ravages. Chez nous, garçons, c'est la pornographie. Quand on a 14-15 ans, on croit très drôle d'avoir tout vu, tout essayé, tout machin. Okay, on se vante auprès de ses potes, c'est très marrant. Ok. Sauf que quand on confesse des jeunes de 20 ans, 25 ans, 30 ans, et qui disent combien ces images-là les allument encore, soit parce qu'ils n'arrivent pas à se sortir de cet esclavage-là, soit parce que ces images-là qui sont en mémoire reviennent, et comme s'interposer sur le regard qu'ils posent, pourtant clair, sur leur fiancée, sur leur épouse, vous comprenez pourquoi c'est important de se battre maintenant. Et encore une fois, il ne s'agit pas simplement d'éviter le péché. Il s'agit de se dire, je me bats pour celle que je vais aimer, pour pouvoir poser sur elle un regard clair, pour pouvoir l'aimer avec générosité, avec clarté. Et vous serez hyper fiers, messieurs. Il faudra lui dire à votre fiancée, de lui dire, tu sais, ça a été dur, ce combat de la pureté. Ça a été dur pour moi. Mais c'est pour toi que je me suis battu. Pour pouvoir t'aimer aujourd'hui, que je me suis battu, que je me suis relevé, que je ne me suis pas découragé, que je me suis confessé. C'est pour toi que j'ai fait ça, pour pouvoir être prêt. Mais en même temps, en vous disant ça, j'ai conscience que ça vous demande un véritable héroïsme parfois. Ne serait-ce que parce que, vous savez, c'était vraiment vieux de dire ça, je comprends. Mais moi, quand j'avais 16 ans, 17 ans, je n'avais pas Internet. C'était vraiment vieux de dire ça. Mais... Et donc, si j'avais voulu avoir des images pornographiques, il aurait fallu que j'aille chez les marchands de journaux en demander. Et c'était le même marchand de journaux où mon père allait chercher lui son journal. Quoi. Donc, à moins de venir avec une cagoule trois trous, c'était juste impossible. Il faut fierté pour ça. Mais du coup, aujourd'hui, avec Internet, c'est tellement facile et immédiat, dès le plus jeune âge. Donc, je sais bien que c'est dur. Mais là aussi, vous découragez pas. Laissez-vous relever et pensez à celle pour qui vous battez. Même si vous ne la connaissez pas encore, un jour vous lui direz, avant même de te connaître, c'est pour toi que je me suis relevé, c'est pour toi que je ne suis pas découragé. Il y a un petit truc que je conseille un jour à un étudiant, pour ça, et je dis, mais trouve-toi une petite image, tu sais, dans vos missels, vous avez tous une petite image comme ça, du Seigneur, de la Sainte Vierge. Et quand tu vas sur Internet, prends une petite image comme ça, et puis pose-la contre l'écran. Tu auras du mal à aller sur un site porno avec une petite image de la Sainte Vierge juste à côté. Non, mais nous, personne n'a besoin de trucs concrets. Hein. Elle me dit, c'est une bonne idée. Et trois semaines plus tard, il revient. Il me dit, c'est pas mal le truc, mais vous auriez pas plutôt un poster, en fait. C'est une image, vous devez partir, quoi. Là, on s'en fout. Faites de votre mieux, vous voyez. C'est ça que mon Dieu touche. C'est ça qui touche mon Dieu. Je conclue. J'ai bien, c'est marrant, vous êtes prêts, vous n'avez toujours pas parlé du bon Dieu, justement. Je n'en ai pas parlé parce que tout ce que je vous ai dit, je pense que n'importe qui, même des non-chrétiens, peuvent le comprendre, peuvent en tout cas garder certaines choses. Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur rajoute à ça? Qu'est-ce que le Christ vient rajouter à tout ça? Deux choses essentielles. La première, c'est que rien n'est jamais perdu. Rien n'est foutu. Vous n'êtes jamais foutu. C'est plus facile de changer de vie à 18 ans, à 20 ans, qu'à 30, on est d'accord. Mais ne dites jamais, pour moi c'est trop tard. Même si on s'est déjà donné, même si on a déjà fait beaucoup de bêtises, même si on s'est sérieusement abîmé, ne dites jamais c'est trop tard. Mes frères prêtres, vous voyez sans doute la même chose, mais moi, la plus belle joie de prêtre depuis 8 ans, c'est de confesser. Et dans la confession, c'est de voir que Dieu n'est pas capable, est capable de guérir les cœurs blessés. De voir que pour ceux qui ont enfin, et parfois c'est dur, c'est peut-être parfois même des années, mais ceux qui ont enfin la franchise et la simplicité de déposer auprès du bon Dieu leurs blessures, leurs bêtises, leurs erreurs, les fardeaux que vous portez parfois, même ce que vous avez parfois vous-même du mal à vous pardonner, le jour où enfin vous arrivez à être vrai avec le bon Dieu, vous arrivez à le déposer, et que vous pouvez enfin entendre ces paroles, tes péchés sont pardonnés, je te pardonne tous tes péchés. À ce moment-là, votre cœur est libéré enfin de ce fardeau. Et ça ne veut pas dire que tout est facile du premier coup ensuite, mais ça veut dire que de confession en confession, Dieu guérit, Dieu soigne, et Dieu vous rend capable de ce grand amour-là. Dieu répare vos cœurs. Dieu redonne virginité à vos cœurs. C'est la seule qui compte à ses yeux. Cette virginité du cœur que Dieu est capable de vous redonner. Parce que Dieu vous refait confiance. Et Dieu sait combien d'entre vous ont besoin de ça aujourd'hui. Derrière les belles façades. Combien de cœurs blessés n'ont jamais réussi dans la confession à déposer ce qu'ils avaient vraiment abîmé. Je vous en supplie. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas le gars ou la fille qui est faible. C'est pas le garçon ou la fille qui s'est déjà planté. C'est pas le garçon ou la fille qui a fait des trucs énormes. Ça, c'est jamais trop grave. Si vous restez vrai avec Dieu. Ce qui m'inquiète, c'est celui qui se décourage au point de ne plus croire en la miséricorde, au pardon de Dieu, ou de ne plus réussir à aller chercher ce pardon-là. Rien n'est jamais foutu. Et deuxième chose, Dieu vous rend capable de ce grand amour. Ce serait cruel de sa part, sinon, de dire « Ta joie, elle est là-haut, mais démerde-toi. Et si tu casses la figure, tant pis pour toi. » Non. Dieu vous dit « Ta joie, elle est là-haut. Je ne peux pas choisir à ta place, dit Dieu, ce sommet. » Mais si tu te choisis, je t'en rendrai capable. Laisse-moi t'aider. Et c'est ça l'Église. L'Église, elle est à vos côtés pour vous aider jusque-là-haut. On prendra le temps qu'il faut, c'est pas grave. On a tout le temps. On vous relèvera autant qu'il faut. Benoît XVI, c'est ce qu'il a dit aux jeunes Allemands lors de son dernier voyage. Il a dit, à la fin de votre vie, le bon Dieu n'a pas compté le nombre de fois où vous êtes tombés. Il va compter le nombre de fois où vous êtes relevés. À chaque fois, il vous a repris. Et puis, on a fait un pas de plus. Et on va y arriver. Peu à peu, mais on va y arriver. Ne renoncez jamais au sommet. Vous êtes fait pour le grand amour. Et tout ce qui n'est pas vrai vous décevra. C'est pour ça que l'Église ne peut pas vous mentir. C'est pour ça que l'Église ne peut pas renoncer à vous dire ça, quoi qu'il en coûte. Vous voyez, elle vous aime trop pour renoncer. Elle vous croit capable du mieux, du meilleur. Un jour, il y a un journaliste qui disait au GMJ, il dit, je comprends pas mon père. Pourquoi ce million de jeunes aillent là à écouter ce vieux pape-là, avec son exigence, avec machin, sa morale? Vous n'allez pas faire voir que ce million de jeunes fait ce que dit le pape? Ah, je dis non, je vous confirme en tout cas qu'ils ne vivent pas tous ce que dit le pape, non? Mais par contre, pourquoi ils sont là? Moi, je vais vous dire pourquoi ils sont là. Parce qu'ils sentent chez ce pape, chez ce vieux pape, un cœur de père. C'est-à-dire un cœur qui à la fois est exigeant, fait grandir, encourage. Et en même temps, il est plein de miséricorde. Voyez. C'est ça le but de l'Église. Et moi, comme le frère prêtre, on a donné notre vie pour ça. Pour vous accompagner là-haut. Et c'est dire le prix que ça a à nos yeux. Ça mérite qu'on donne sa vie pour ça. Voyez. C'est pour ça qu'il ne faut pas renoncer. Je vais terminer avec une petite histoire qui m'a donné envie de faire ces conférences. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un garçon qui avait 21 ans à l'époque. J'étais diacre. Je n'étais pas encore prêtre. C'était 9 ans. Garçon, il est vraiment vu cet idéal-là, ce bel idéal. En même temps, il était fragile. On est tous fragiles. On est tous fragiles. Moi, le premier. Un jour, il m'appelle, dimanche matin, à 8h du matin. J'espère que vous avez tous dans votre numéro portable le numéro d'un prêtre à appeler. C'est important. Les portables de prêtres sont toujours allumés. Sauf pour moi, la messe. Sinon, ils sont allumés. Bref, il m'appelle à 8h du matin, dimanche matin. Il dit l'abbé, monsieur l'abbé, j'ai fait une énorme connerie à soir. J'étais en boîte à Paris, j'ai chopé une fille, ça allait bien loin. C'est tellement pas ce que je veux vivre. J'ai tellement honte de ce que j'ai fait. Le gars, il avait quand même marché 2 heures dans Paris, 5h, 7h du matin, pour trouver un prêtre qui le confesse. Tellement il voulait être froid avec Dieu tout de suite. Et puis, ça suffit pas, faut que je demande pardon à cette fille. Il se trouve que je connaissais la fille en question. Il ne savait pas. Une semaine après, je rencontre cette fille-là, 17 ans, plus jeune, pas du tout le même esprit. pas du tout le même idéal. Petite jeune fille très mignonne, très libérée, tableau de chasse impressionnant, incroyable. Voilà. Bon, et elle me dit, elle me croise, elle me dit, ah la vie, il faudrait que je vous raconte, ma vie a changé cette semaine. Je dis, ah bon ? Je dis, ben oui, j'étais en boîte ce samedi soir dernier, j'ai chopé, c'est allé jusqu'au bout, j'étais consentante, un peu crâne, quoi, dans une boîte, un peu moche, un peu laid, bref. Et elle me dit, mais bon, c'était pas la première fois, rien d'original pour moi. À la fin, on s'échange le numéro de téléphone, mais moi j'avais, enfin pour moi c'était clair dans la tête que c'est le plan d'un soir et c'est suffisant. Il me rappelle après, deux jours plus tard, si je t'embêtais parce que je voulais vraiment pas qu'il s'accroche, pour moi c'était clair que c'était une histoire d'une soirée. Mais j'accepte quand même de le revoir. En fait, pas du tout, dit-elle. Il est venu me demander pardon. Pardon d'avoir fait ce qu'on avait fait ensemble. Et il m'a supplié de ne pas me donner si facilement. Elle me dit, je n'ai jamais rencontré un garçon qui me respecte au point de me demander pardon d'avoir fait ce genre de choses avec moi. Je ne pensais pas que ça existait, d'ailleurs, dit-elle. C'est pour ça que moi, je n'avais pas trop de scrupules à les enchaîner, moi aussi. Mais elle me dit, si ça existe, c'est évident que si un jour je me marie, je veux que ce soit un garçon de cette droiture-là, de cette trempe-là. C'est ça qu'il faut que je le mérite. Elle me dit, mais figurez-vous que, pour la première fois depuis 5 ans, je vais me confesser moi aussi. Et puis j'ai décidé d'apprendre à attendre. Bon, ça va être dur, dit-elle. Je ne vais pas y réussir d'un coup, je suis sûr. Il va falloir m'aider. Mais je veux pouvoir dire à mon mari que j'ai appris à le mériter. Vous voyez, c'est génial parce que ce gars-là, il avait un bel idéal, ça n'empêche pas d'être fragile. Et parce qu'il a été franc, parce qu'il s'est laissé aider, parce qu'il s'est laissé relever, non seulement en se relevant, il a pu lui continuer son chemin, et aujourd'hui il a fondé un couple, il a un foyer super, et vraiment, c'est un type génial, une famille géniale, un jeune couple génial, mais en se relevant et en osant y croire encore, eh bien, il a permis à cette fille-là de découvrir qu'un autre amour était possible. Eh bien, je pense profondément que dans un groupe d'amis, dans une classe, dans une fac, dans un campus comme le vôtre, si 2, 3, 4, 5, 6 osent croire à cet amour vrai, osent partager, s'entraider à vivre cette exigence-là de vérité, de façon joyeuse, de façon claire, de façon pas du tout coincée, voyez, pas remplie sur soi, mais au contraire, rayonnante, quoi. Parce que c'est beau l'amour, parce que c'est positif, parce que c'est grand ce à quoi vous vous préparez, si vous osez y croire, et si vous acceptez de vous laisser aider au cœur même de vos fragilités, que vous promettre que vous donnerez envie à d'autres de le découvrir. Et que grâce à vous, alors même que vous êtes pauvres et fragiles comme tous, grâce à vous, d'autres découvriront une autre façon d'aimer. Je vous remercie beaucoup.